Écoute, économie, Jocelyne Moussaou.
Bonsoir et bienvenue dans ce magazine économique. Berry Franklin du Tchaka nous emmène les nouvelles.
Toutes les taxes à l'exportation perçues sur le bois exploité dans l'Ituri seront désormais exclusivement perçues à la source et non en territoire de Beni dans le Nord Kivu. Plus de détails dans deux minutes avec Delvin Waïsala. Et puis, les frigoristes de Bukavu se plaignent des conditions dans lesquelles ils travaillent. Les produits qu'ils achètent sur place à Bukavu pour les réparations sont inefficaces et ils incriminent l'Office congolais de contrôle. C'est un reportage de Jean-Baptiste Ntonga. Suivre dans la seconde partie de cette émission.
Les propositions actuelles sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'étain sont insuffisantes. Le gouvernement congolais devrait pousser les entreprises à être plus rigoureuses. C'est ce que dit un communiqué de Global Witness publié aujourd'hui. Nous recevons dans la seconde partie d'Écho d'économie Émilie Serralta, chargée des campagnes dans l'équipe RDC à Global Witness. Les informations nationales, c'est en principe aujourd'hui que le débat général sur le projet de budget 2010 s'est clôturé à l'Assemblée nationale.
Et déjà, les voix se lèvent pour relever les lacunes et les irrégularités. En ce qui concerne les dépenses, les députés soulèvent l'insuffisance des fonds alloués aux provinces ou encore à la rubrique des investissements comme l'agriculture. Et du côté des recettes, le projet fait abstraction par exemple à des recettes réelles de l'exploitation du pétrole ou de la communication. Rappelons que ce projet de budget est d'un peu plus de 5 milliards de dollars américains et le vote de ce projet devra intervenir le vendredi après que le Premier ministre ait répondu aux préoccupations des députés. Au regard de la position de la majorité des intervenants à ce niveau des débats, Jocelyne, ce projet a une forte probabilité d'être jugé recevable par l'Assemblée nationale.
Et le premier salon de l'emploi et de l'entreprise se tiendra du 3 au 5 novembre prochain à Kinshasa.
Elle réunira les entrepreneurs tant du secteur privé que public et les demandeurs d'emploi. L'Office national de l'emploi qui organise ce premier salon depuis sa création se fixe comme objectif principal d'inciter les entrepreneurs à recruter la main d'œuvre locale qui répond souvent à leurs critères. L'ONEM se veut être aussi le porte-parole à ce salon de tous ces jeunes diplômés qui sortent des universités et qui sont souvent victimes des critères d'expérience. Kikudi Eliane Angélique, directrice générale de l'ONEM, est au micro de Daniel Tambizoni.
Nous voulons obtenir des stages d'entreprise pour certaines catégories de demandeurs d'emploi tels que les finalistes des universités et des écoles. Même ça, que ce soit les entreprises publiques ou les entreprises privées, ils peuvent le faire, ils peuvent offrir des stages d'entreprise, des stages professionnels. L'ONEM, c'est le service public de l'emploi. Il va se positionner en lobbyiste, faire le, comment on appelle, le plaidoyer des demandeurs d'emploi auprès des entreprises. S'ils ne prennent pas des gens en stage, où est-ce qu'ils vont aller apprendre, avoir l'expérience qu'ils exigent quand ils veulent recruter, quand ils donnent des offres?
Voilà, c'était Kikudi Eliane au micro de Daniel Tambizoni. Kasaï Oriental grogne à la division provinciale du budget.
Certains agents accusent le chef de division de mégestion financière et administrative, surtout dans la gestion de la caisse commune dite de mutualité. Le chef de division provinciale du budget rejette toutes les accusations mises à sa charge. Charles Chikaya parle d'une main noire qui manipule ses agents dans le but de le déstabiliser.
Et toute personne citée dans la malversation financière au Kasaï Oriental doit comparaître.
C'est ce qui ressort de l'entretien entre le gouverneur de province et les députés membres des groupes parlementaires aujourd'hui. Les concernés sont ceux qui sont cités dans le rapport d'enquête parlementaire de l'Assemblée provinciale. Pour Alphonse Ngoy Kassandji, les dossiers des bourgmestres et maires concernés doivent être transmis au parquet car le délai de 30 jours est consommé. Par la même occasion, le procureur général de la Cour d'appel a ouvert le registre d'information à l'endroit de l'ancien et de l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Ces deux députés ainsi que 5 membres de l'administration sont accusés de mégestion par la commission spéciale du contrôle et de la gestion de l'organe délibérant.
La nouvelle économie au bout du fil. Le téléphone sonne en province orientale, précisément en Ituri, et nous appelons Delvin Waïsala. Delvin, bonsoir. Toutes les taxes à l'exportation perçues sur les bois exploités dans ces districts seront désormais exclusivement perçues à la source et non pas en territoire de Beni dans le nord Kivu, Delvin.
Oui, Jocelyne, cette décision émane du ministre provincial de l'Environnement de la province orientale avec son homologue du Nord Kivu. Les deux ministres se sont mis d'accord samedi dernier à l'issue d'une rencontre qui les a regroupés dans la ville de Beni, province du Nord Kivu. C'était pour harmoniser les modalités de perception des taxes sur les bois exportés.
Et pourquoi la décision de ne percevoir ces taxes qu'en province orientale et non au Nord Kivu?
Jocelyne, selon Jacques-Claude Essouka, ministre de l'Environnement de la province orientale, cette nouvelle façon d'agir permettra surtout à son gouvernement de connaître les statistiques des bois coupés et exportés à partir de sa juridiction. Selon ce ministre, tous les bois exploités en Ituri et destinés à l'évacuation via le Nord Kivu doivent être obligatoirement statués à la sortie par les services de l'environnement des districts de l'Ituri.
Et comment les exportateurs de bois ont-ils accueilli cette résolution?
Jocelyne, pour les exportateurs de bois Ituri et ceux du Nord Kivu, cette résolution est une formule bien choisie pour les épargner de multiples tracasseries administratives au niveau des différentes barrières routières. Toutefois, ils souhaitent voir les deux ministres provinciaux passer de la parole à l'acte.
Merci beaucoup, Delvin Waïsala, pour cette information et bonne soirée à Bounia.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Béry Louchaka.
Béry, en Algérie, le nombre de PME a dépassé les 400 000 à la fin du premier semestre 2009.
C'est ce qu'annonce le ministre algérien des PME et de l'artisanat. Ces entreprises qui emploient plus de 1 million de personnes contribuent à 55% de la production nationale globale hors hydrocarbures. Quant au secteur de l'artisanat et de métiers, il compte 7 000 nouveaux artisans et un chiffre global de 300 000 emplois à la fin de la même période indiquée. Le ministre estime que 80% des objectifs tracés dans le cadre du programme quinquennal 2004-2009 ont été concrétisés, alors que les 20% à accomplir seront réalisés d'ici fin 2009.
L'excédent commercial chinois recule de 26% en un an.
Et cela même si la balance commerciale chinoise demeure largement excédentaire. Elle peint à renouer avec ses brillants résultats de ces dernières années, en cause la baisse de la demande étrangère et les importations des matières premières.
Merci beaucoup, Berry Franklin Louchaka, pour ces informations internationales. Voici la deuxième partie de Écho d'économie.
Écho reportage.
L'éco-reportage de ce soir à Bukavu, où les frigoristes de cette ville disent travailler dans des conditions difficiles. Il y a plus de 5 mois qu'ils achètent sur place des produits inefficaces pour la réparation de chambres froides, frigos et congélateurs. Ces frigoristes incriminent l'Office congolais de contrôle. Jean-Baptiste Ntonga.
Les frigoristes de Bukavu estiment que le gaz froyant qu'ils utilisent dans leurs réparations devrait être bien vérifié à l'entrée aux frontières par l'Office congolais de contrôle pour une bonne rentabilité de leurs activités. Ils affirment avoir déjà des problèmes avec leurs clients. Écoutons les propos de l'un de ces frigoristes.
Ces derniers temps, on nous a amené le gaz qui est expiré ici et il n'y a même pas un suivi au niveau de l'OCC pour bien contrôler si le gaz est bon ou mauvais. Alors là, ça nous amène vraiment en difficulté ici.
De son côté, l'OCC dit qu'il est pour le moment difficile de contrôler efficacement ce produit qui entre par trafic frontalier et en petite quantité. L'OCC Bukavu donne une recommandation. Gabriel Mboula, chef de division exploitation à l'OCC Bukavu.
Depuis janvier jusqu'à la fin du mois d'août, nous avons contrôlé 200 kilos de gaz naturel. En ce qui concerne leur qualité, je suis heureux de vous dire qu'ils ne sont pas outillés pour savoir si le gaz est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Donc on se limite au contrôle quantitatif. Néanmoins, ça sera de même une préoccupation pour qu'à l'avenir, nous puissions effectuer ce contrôle. Comme conseil, je pense qu'ils doivent en principe s'organiser pour qu'il y ait une importation en grande quantité. Parce que quand il y a une importation en grande quantité, il y a les contrôles avant embarquement qui sont faits.
Et dans ce cas, notre mandataire fait le contrôle sur ces produits. Certainement, la qualité de ces produits sera déterminée à l'embarquement. On aura au moins l'assurance à partir des fournisseurs à travers les AV et il est de bonne qualité.
L'association des frigoristes de Bukavu, AFISKI, en sigle, compte organiser plusieurs rencontres avec ses membres et les autorités locales afin de chercher des solutions pour contourner les difficultés liées à ce métier.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Émilie Serralta, chargée de campagne dans l'équipe RDC à Global Witness, cette ONG britannique qui vient de publier un rapport. Émilie Serralta, vous dites que les propositions actuelles sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'État sont insuffisantes et que le gouvernement congolais devrait pousser les entreprises à être plus rigoureuses. Qu'est-ce que cela veut dire?
En fait, ce communiqué de presse aujourd'hui, c'est en réponse au fait que le gouvernement congolais a soutenu l'initiative ITRI sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'État. Nous encourageons bien évidemment le gouvernement congolais à supporter cette initiative et à coopérer avec les entreprises afin de mettre terme aux liens qui existent entre le commerce des minerais et le conflit armé dans l'est de la RDC. Mais nous souhaitons aussi que le gouvernement congolais soit plus, pas sévère, mais soit plus triste, je dirais, et soit vraiment convaincu de l'efficacité de ses propositions.
Mais quelles sont ces propositions, justement? Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement?
Alors, les propositions de ITRI, dans cette initiative sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'État, ce n'est pas une proposition de Global Witness, c'est une proposition des membres de l'industrie de l'État qui opèrent ou qui achètent de l'État venant de l'Est du Congo. Et cette proposition, en fait, elle est un peu en réaction à la pression qui existe depuis plusieurs années déjà sur la question de l'État et son rôle dans le conflit dans l'Est. Donc c'est en réponse à cela qu'il y a eu cette proposition. Cette proposition de l'industrie de l'État, elle vise à amener plus de transparence au niveau de la chaîne d'approvisionnement de l'État, puisque en effet on sait que dans l'Est, un certain nombre de groupes armés ainsi que l'armée nationale sont impliqués dans les mines. Et bien sûr, ça a des conséquences sur les populations à proprement des mines ou sur les mineurs même et leurs conditions de travail. Donc, cette proposition de l'industrie de l'État, cette initiative ITRI, elle vise à amener plus de transparence dans cette chaîne d'approvisionnement et en théorie elle vise à s'assurer que les revenus de l'État ne bénéficient pas aux groupes armés. Le problème que nous avons actuellement c'est que cette initiative nous la trouvons je dirais pas assez stricte au niveau des mesures qu'elle propose et c'est pour ça que nous demandons au gouvernement congolais d'être lui-même plus strict quand il s'engage à soutenir cette initiative. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de demandes de la part du gouvernement congolais sur cette initiative.
C'est ce qu'on veut justement très bien comprendre. Vous dites que les gouvernements doivent être un peu plus rigoureux. Est-ce que vous avez constaté certaines légèretés?
Alors, pas de la part du gouvernement, bien sûr. Hein, ce qu'on veut juste souligner, c'est qu'avant de dire nous donnons notre soutien entier à cette initiative, il voit bien qu'il y ait certains problèmes avec cette initiative, et là en particulier, et le fait que les propositions de l'ITRI concernent principalement des contrôles d'ordre technique et administratif, donc ça exigerait des commerçants et des intermédiaires qui remplissent une série de formulaires de déclaration de l'origine des minerais. Nous pensons que, bon, bien sûr, c'est intéressant d'avoir un certain nombre de formulaires, mais on sait très bien qu'on peut mentir sur ces formulaires. Donc, on ne peut pas se baser seulement sur une série, une chaîne de formulaires remplis par les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour dire que la chaîne est transparente et qu'il n'y a pas de groupe armé impliqué. On a besoin de choses plus poussées que ça.
Comme
et en particulier, il serait utile justement d'avoir un mécanisme mécanismes qui permettent de vérifier de manière indépendante l'information qui sera communiquée au travers de ces formulaires par les fournisseurs. Donc ça, c'est un des problèmes, par exemple. Il y a aussi d'autres problèmes avec cette initiative, notamment au niveau du timing, de quand exactement cette initiative se met en place, de ses objectifs. Il y a un nombre de problèmes que nous avons déjà soulevés avec l'IPRI même, puisqu'ils ont essayé de consulter un certain nombre d'ONG. Donc on a soulevé ces problèmes-là, mais on n'a pas eu encore de réponse si ces problèmes ont été adressés dans leur initiative. Donc c'est pour ça que quand le gouvernement congolais soutient sans équivoque cette initiative, alors qu'il y a des problèmes, on pose la question, mais aussi on dit, bon, ben, le gouvernement congolais devrait quand même être plus prudent quand il s'agit de soutenir cette initiative.
Émilie Peralta, merci d'être intervenue dans cette émission Éco d'économie. Je rappelle que vous êtes chargée de campagne dans l'équipe RDC à Global Witness. C'est avec vous que nous bouclons cette émission qui a été élaborée par Béry Luchaka, Agathe Mpona, Daniel Tambizoni, sous la supervision de Ben Kabamba. L'émission a été présentée par Jocelyne Moussaoupondé. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.